Bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Une fois par mois, l'émission est donc animée par la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Je suis moi-même Julia Bigot et je recevrai tout au long de cette nouvelle saison mes collègues archéologues, historiens ou spécialistes pour partager donc leurs connaissances sur le passé de la ville et de ses habitants. Pour ce premier rendez-vous, nous vous proposons donc avec Laurent Coulon, directeur de l'archéologie à Chartres, de découvrir le patrimoine disparu en cœur de ville, et plus précisément autour du cloître de la cathédrale. Bonjour Laurent.
Bonjour Julia.
Alors notre visite virtuelle va commencer du quartier cathédrale va commencer au pied de la cathédrale face à la maison canoniale. Du coup, quel était cet édifice, quelle était cette maison ?
C'est une des maisons qui se situait dans le cloître. Elle servait de logement à des chanoines de la cathédrale.
Et c'est un établissement que vous connaissez bien, puisque je crois que la direction de l'archéologie a été accueillie il y a quelques années dans ces locaux.
Effectivement, nous avons été logés dans ces bâtiments pendant quelques temps.
Et donc cette maison se trouve donc à côté du parvis, qui est aujourd'hui une esplanade paysager, mais je crois que ça n'a pas toujours été le cas.
Non, effectivement, il faut imaginer l'espace aujourd'hui libre devant la cathédrale comme un espace qui était densément bâti au Moyen-Âge et à l'époque moderne, mais les fouilles du début des années 90 ont révélé également une occupation plus ancienne, une occupation antique.
Et qu'est-ce qu'il y avait du coup à l'époque gallo-romaine sous le parvis ?
Pour l'instant, nous savons qu'il y avait des constructions, des bâtiments privés, mais probablement un vaste bâtiment public qui va être réutilisé à la fin de, durant le Bas-Empire.
Donc on a un quartier d'habitat, on va dire, et qui va perdurer, du coup, vous disiez, jusqu'à...
Il va perdurer. Pour l'instant, nous avons assez peu d'informations. Il semblerait qu'il y ait un hiatus au moment du Haut Moyen-Âge, avec un espace plutôt libre, et qui va à nouveau être densément construit à partir des 10e, 11e siècles avec les premières maisons canoniales.
Parce qu'effectivement, quand est-ce qu'a été construit ce cloître ? Pourquoi un cloître autour de la cathédrale ?
Alors, le chapitre de la cathédrale, le clergé de la cathédrale, dans les périodes les plus anciennes, menait une vie en commun, comme les religieux d'un monastère. Puis progressivement, à partir des 9e, 10e siècles, chaque chanoine va devenir finalement indépendant par rapport au chapitre, indépendance toute relative. Les repas ne sont plus pris en commun et ils vont disposer chacun d'une maison individuelle.
D'accord.
D'où la nécessité de construire de ces habitations autour de la cathédrale. Et puis, il y a quand même un semblant de vie commune, avec notamment la fermeture de l'espace où sont les maisons canoniales, fermeture qui sera sur un plan juridique atteinte à la fin du XIIIe siècle. Et le soir, les portes du cloître sont fermées et les chanoines doivent être rentrés dans le cloître avant la fermeture des portes. Sinon, ils doivent justifier de leur retard.
D'accord, c'est comme à l'école, on doit aller voir le surveillant avec un mot d'excuse si on rentre tard. Et qu'est-ce que faisait donc du coup, quelle était la vie donc de ce cloître ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Puisque les portes étaient ouvertes, donc du coup, je suppose qu'il y avait des allers-retours, des activités qui avaient lieu.
Il faut imaginer un espace qui est grouillant de vie, avec évidemment les pèlerins qui viennent à la cathédrale, les membres du clergé qui vont assurer toutes les cérémonies au quotidien. Mm-hmm. Et il faut imaginer qu'il y avait plusieurs dizaines d'hôtels dans l'édifice et que chaque hôtel donnait lieu à des cérémonies particulières, voire privées. Mais il y avait également énormément de marchands, de commerçants, tous les vendeurs d'objets religieux, les insignes de pèlerinage, par
D'accord.
exemple. Il y avait également les ouvriers qui vont travailler
Autour de la
à la
cathédrale.
construction de l'édifice et puis à son entretien. Voilà. Il y a les membres de l'administration, du chapitre et de l'évêque.
Donc une vraie vie, une vraie communauté, des marchés donc et des boutiques, on peut imaginer.
Il y avait des boutiques et toute une activité commerciale au sein du cloître. Et puis on y faisait sa cour, on venait y régler ses affaires. C'est un lieu qui est grouillant de vie, à l'extérieur, dans le cloître, mais également à l'intérieur de
Intérieur.
la cathédrale.
Et comment aujourd'hui avons-nous des traces de ce cloître? Est-ce qu'il y a des choses que l'on voit encore? Qu'est-ce qui est perceptible aujourd'hui?
Bon, dernièrement, les portes du cloître ont été à nouveau visualisées avec des marquages au sol. Mais il y a également par endroits, une partie du mur du cloître est encore visible. Je pense notamment à la rue de l'Étroit Degré.
D'accord, donc ce qui veut dire que si je regarde un peu les restaurants ou les boutiques qui se trouvent, donc quand on regarde la cathédrale face au portail royal sur notre gauche, là on peut voir donc des traces d'un mur, d'un édifice.
Du côté de la rue de l'Étroit Degré. Après, il y a quelques maisons canoniales qui sont encore visibles. Sinon, le quartier a été profondément transformé au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle avec la création du parvis, la disparition d'une partie des maisons canoniales et surtout la disparition de l'Hôtel-Dieu ou Aumône Notre-Dame qui se trouvait quand on est face à la cathédrale qui se trouvait à droite et donc avec une grande salle, il disposait d'une grande salle, la salle Saint-Côme, ce qui était la salle qui abritait les malades. You get home just about sundown and jump into the shower and now you're starting to unwind. And you know you've only got an hour to comb your hair and put your good clothes on. Everything has got to be right 'cause it's Saturday night. You call your best friend on the telephone to drop by and pick you up. And just about seven you hear him coming with his fiberglass mufflers on his pickup truck. 'Cause when you look good, ooh, baby, you feel good. Everything is gonna be right 'cause it's Saturday night. Circle the Dairy Queen to see who is hanging out with your elbow stuck out the window. You don't care if it all hangs out, 'cause when you feel good, ooh, mama, you look good. Everything is gonna be right 'cause it's Saturday night.
Donc Laurent, à côté de la cathédrale, il y avait un Hôtel-Dieu. Est-ce qu'on a des indices à quelle époque il a été construit et comment, est-ce qu'on peut faire une petite visite virtuelle? Comment était-il agencé?
De son origine, c'est très très peu de choses. La première mention dans les textes nous amène au XIe siècle, mais l'évêque et le chapitre avaient une obligation de secours envers les pauvres et les malades. Donc il a probablement une origine plus ancienne. Alors les premières constructions nous sont inconnues. Ce que l'on sait, c'est qu'à sa grande époque, à partir des 12e, 13e siècles, il prend la forme d'une vaste salle qui était parsemée d'épaisses colonnes pour soutenir le plancher de l'étage, et avec des lits bahuts, finalement installés entre les colonnes ou le long des murs. Et tous ces lits donnaient sur la partie orientale de la grande salle où son extrémité était aménagée en chapelle, puisque les malades devaient pouvoir assister aux offices depuis leur lit. Et certaines des colonnes de la grande salle existent toujours. Il y en a deux qui sont placées à l'extérieur, le long du transept sud de la cathédrale.
Qu'on peut voir du coup depuis la rue.
Que l'on voit depuis la rue. Une des colonnes a été remontée et sert de base au calvaire de la croix Bonnard.
D'accord.
Et certaines autres colonnes ont été intégrées dans la façade du château d'If, donc à l'entrée de l'Eure dans la ville.
Donc ce patrimoine n'a pas du coup totalement disparu, mais il faut le savoir. Et quel était un petit peu, il y avait une anecdote, vous me disiez comment on soignait ces malades à cette époque du coup?
Il y a quelques soins médicaux, mais la médecine était encore balbutiante. Surtout, on requinque les malades par du repos et un régime alimentaire amélioré.
D'accord. Et la prière qui peut
aider. Évidemment, la prière.
Qui peut aider. Donc du coup, on va continuer notre visite virtuelle autour de la cathédrale. On va repasser du coup à proximité de la rue de l'Horloge. Pourquoi ce nom et quelles observations vous avez fait à cet endroit en tant qu'archéologue?
La rue, évidemment, prend son nom de l'horloge qui est construite au XVIe siècle sur le flanc nord de la cathédrale. Ça va donner, enfin, la porte du cloître qui se trouve à cet endroit va prendre le nom de porte du cadran, mais auparavant elle s'appelait la porte neuve. Et dernièrement, lors des travaux de restauration d'une maison à cet emplacement, nous avons pu faire des observations, et notamment sur les pans de bois. Donc on a une maison du XVIe siècle qui va être reprise et transformée plus tard. Et à l'emplacement de la rue de la Porte Neuve, ou rue de l'Horloge maintenant, on trouvait la boucherie de la Porte Neuve, puisque nous sommes aussi à cet endroit-là sur le tracé. Nous connaissons pas avec précision, mais on sait que cette structure passait à cet endroit-là, sur le tracé de l'enceinte du haut Moyen-Âge qui protégeait la ville jusqu'au 10e, 11e siècle et jusqu'à la construction de la nouvelle enceinte à partir de la fin du 12e siècle.
Et donc pourquoi une boucherie à côté de la cathédrale? Je crois qu'il y a une règle qui était dictée dans les villes.
C'est un principe. Dans les villes du haut Moyen-Âge, en général, les boucheries se trouvent à l'extérieur de la ville, immédiatement aux portes.
D'accord. Interdiction donc d'avoir du sang dans la ville à cette époque.
Probablement la persistance d'un tabou plus ancien.
Et pourquoi, quels sont les noms de ces portes-là qui jalonnaient le cloître? Je crois qu'il y en a 9. Est-ce que vous pouvez nous les citer, Laurent? Ou est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'elles ont des noms particuliers?
On peut les citer. Hein. Il y avait la porte de l'officialité qui était juste à côté de l'évêché, hein, à côté du musée des Beaux-Arts. Évidemment, la porte du cadran, face à l'horloge. La porte des 3 degrés. Rue de les 3 degrés, donc la rue va prendre le nom de la porte, hein. 3 degrés ça veut dire 3 marches, puisque la rue était en surplomb par rapport à la rue l'actuelle rue du Cheval Blanc. Il y avait la porte de l'Hôtel Dieu, qui existe toujours, la porte Percheronne, la porte d'échange, au bout de la rue, enfin dans l'axe de la rue d'échange, la porte de la fruiterie, la porte Saint-Jean, et la porte du Vidame, qui donnait sur les actuelles terrasses de l'évêché.
Et juste avant justement de pénétrer dans le jardin de l'évêché, je crois que si on longe la cathédrale, donc du coup toujours sur son côté nord, il y avait là une église que l'on ne voit plus aujourd'hui.
Il y a effectivement une église qui a aujourd'hui disparu, qui se trouve en grande partie sous le jardin du musée des Beaux-Arts, enfin, devant l'entrée du musée des Beaux-Arts, qui était l'église Saint-Serge-Saint-Bac, qui va devenir par la suite l'église Saint-Nicolas. C'est une église qui va être démolie au tout début du XVIIIe siècle pour justement faire donner naissance au jardin que l'on connaît maintenant devant le musée des Beaux-Arts.
Et je crois qu'il y avait des reliques ou il y avait quelque chose de précis d'abriter dans cette église.
Lors de la démolition, des sarcophages ont été découverts, notamment celui de Saint Calétric, dont le sarcophage maintenant est dans la crypte de la cathédrale, si mes souvenirs sont bons. Donc Saint Calétric est un évêque de Chartres du VIe siècle. C'est le successeur de Saint Lubin, qui est normalement l'organisateur de l'église de Chartres.
Oui, parce que la liste des évêques, vous m'aviez dit, c'est une histoire en tant que telle, en fait.
Dans la liste des évêques de la ville de Chartres, hein, pour les premiers évêques, les plus anciens, comme souvent ailleurs également, il y a des personnages dont l'existence historique n'est vraiment pas assurée.
Je crois aussi qu'il y a une... Parce que j'ai eu la chance de faire la visite avec vous, Laurent, autour de la cathédrale, qu'il y a comme un passé, de croyances et de religieux autour de la cathédrale qui s'expliquerait par, vous m'aviez dit...
L'histoire de l'église, avec un grand E, de Chartres, donc des origines chrétiennes et de l'histoire finalement religieuse de la ville, va être écrite par justement les religieux, par les gens du chapitre, et évidemment a posteriori. Donc on dispose d'un texte qui date de la fin du XIVe siècle, qui s'appelle la Vieille Chronique, et finalement les religieux racontent l'histoire, leur histoire, depuis les origines, et la tradition fait qu'ils disent qu'à Chartres, les druides, parce qu'ils ont entendu parler des druides, vénéraient la statue d'une vierge enceinte dans une grotte située évidemment à l'emplacement de la cathédrale. Ce qui fait des druides carnutes, finalement, les chrétiens avant la naissance du Christ.
Donc un riche passé religieux, une histoire qui s'inscrit...
Un passé plus glorieux que...
Voilà. Et là, du coup, on est quand même dans un lieu aussi justement majestueux, on est devant le palais épiscopal. Quelle est un petit peu son histoire? De quand date-t-il cet édifice?
Le palais épiscopal doit remonter évidemment avec les premiers évêques, mais on ne sait pas grand-chose des origines des premières églises. La première mention de la cathédrale date de la première moitié du 8e siècle. Ce qui se passe avant, on n'en a aucune idée. Donc, le palais de l'évêque, la même chose, c'est qu'à partir du moment où on commence à avoir des textes, qu'on commence à avoir des renseignements, donc c'est à partir des 10e, 11e siècle. Ce que l'on sait, c'est qu'il est reconstruit en pierre par Saint-Yves, au tout début du 12e siècle. Donc, auparavant, on doit avoir un bâtiment en matériaux légers, c'est-à-dire bois, torchis.
D'accord. Voilà. Donc là, et la façade que l'on admire là aujourd'hui, elle date de quelle époque?
On est à la période moderne, on doit être fin 17e, 18e siècle.
Et sur le côté de ce palais épiscopal, dans le jardin, on voit un mur avec une arche. Qu'est-ce que c'est exactement?
Ce sont les restes d'une galerie qui permettait à l'évêque d'aller à pied sec, finalement, de sa résidence à la cathédrale.
Et sur le côté, si on prolonge notre visite, avant d'arriver vraiment dans les jardins, il y a un petit espace en herbe. Qu'est-ce que c'est?
C'est l'emplacement de la chapelle et du cimetière Saint-Jérôme. Ce sont des éléments qui sont établis au XIVe siècle. Donc le cimetière accueillait les restes de membres du clergé de la cathédrale. Parce qu'il faut bien savoir que jusqu'au XIXe siècle, il n'y a pas de mort dans la cathédrale. D'accord. La tradition fait qu'on enterre, on ne met pas de mort dans la cathédrale.
Donc face à ce cimetière, qu'on peut dire, donc on peut l'appeler Saint-Jérôme, on va dire, il y a donc l'esplanade et les jardins en terrasse, dits les jardins de l'évêché. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que ce lieu a toujours été donc un lieu de jardin?
Comme pour le parvis, finalement, c'était des lieux qui étaient densément bâtis. Hein. Il faut imaginer que derrière la chapelle Saint-Pierre, donc la terrasse où il y a ces arbres qui procurent de l'ombre, on avait une série de constructions, et notamment l'hôtel du Vidame. Hein, le Vidame étant le bras armé de l'évêque, c'est-à-dire le représentant séculier de l'évêque. Donc, et là, les jardins de l'évêché, il faut imaginer des rues, des maisons, toutes ces choses ont disparu au XVIIIe siècle.
Donc plus de labyrinthe, plus de pelouse, mais à la place donc des habitations et je crois aussi un collège, c'est ça ?
Dans ce secteur-là, on va avoir le premier collège de la ville. Je ne connais plus sa date de fondation, mais on est à l'époque moderne.
Et si on continue, donc si on essaye de prolonger notre visite jusqu'au bout du jardin, on voit aussi une petite chapelle qui est accolée à l'hôtellerie Saint-Yves. Quel est cet édifice ?
Il s'agit de l'ancienne église Saint-Étienne, puis église Saint-Jean. C'est une église qui est probablement, dont les origines sont probablement anciennes. Et cette église va accueillir finalement les religieux de l'abbaye de Saint-Jean en Valais. C'était une abbaye, une collégiale de chanoines réguliers, qui se situait à l'emplacement du parc André Gagnon.
Well, you hear a lot of talk these days about homeland security. Sounds to me like someone's going to make some serious money out of it in the usual way. Now I got all the home security I need. He's a bargain. Well, I got a dog in this fight. I got troops on the ground. His name is Oldsby Cooley, and he's the meanest dog in town. But if you think I'm fooling, try busting in through the door. He'll tear you a whole brand new one, and you won't come back no more. Spade's a good dog, he's really bad. He's the best pal this poor boy ever had. Now, Spade might get suspicious when first you chance to meet. So if you come a-calling, you better wipe your feet. And empty out your pockets, let him see your hands. Be sure to talk good English so he can understand. Now Spade likes mariachis, loves to hear him croon. I know he'll be watching if fiddles ain't in tune. When you come round to our table, better play it sweet, or it's adios muchachos down on over the street. Spade's a good dog, yeah, he's really fine. So if you want to be a friend of mine, just pledge allegiance to our flag, try to sing on key, and you won't have no problem with my dog, Spade Cooley.
Donc nous poursuivons donc notre visite, on va dire virtuelle, autour du cloître Notre-Dame avec Laurent Coulon, donc directeur de l'archéologie à Chartres. On va donc passer sur le côté sud de la cathédrale. Et là, c'est vrai qu'il y a des jolies maisons, mais on ne connaît pas forcément leur histoire et certaines seraient apparemment très anciennes, Laurent.
Certaines de ces constructions ont fait l'objet d'études. Et d'éléments de datation, hein, par l'étude des styles, hein, de la construction. Donc, par exemple, au 24 rue des Acacias, on a une maison qui est 13e, 14e siècle. Dans le cloître, il en existe d'autres. D'autres maisons d'origine médiévale qui ont gardé une partie de leur ossature anciennes, mais qui ont souvent subi des transformations qui les ont beaucoup modifiées.
Et donc on ne soupçonne pas leur passé ancien, mais on peut du coup dire que grâce à l'archéologie et aux études, on redécouvre du coup l'histoire de ces maisons.
Tout à fait.
Je crois qu'il y en a une autre aussi qu'on peut observer qui surplombe donc la galerie Fulbert.
Où il y a effectivement une maison ancienne.
Qui daterait de cette même époque. Ouais. Donc là, on va un petit peu dévier notre chemin et on va partir vers la rue aux Herbes. Donc on va être, je crois, mais Laurent, vous allez nous expliquer à la limite du coup entre le quartier, je dirais, des Chanoines et du quartier du Château. Pourquoi la rue aux Herbes ?
Dans ce quartier, toutes les rues se rapportent finalement à une activité de commerce ou à des métiers du quotidien. On a la rue aux Herbes, la rue au lait, la rue de la petite cordonnerie, il me semble. Puis un peu plus loin, évidemment, on va avoir la place de la poissonnerie, hein, qui abritait le marché du poisson de mer. Il y a la rue du poisson doux qui rappelle l'époque où on vendait le poisson d'eau douce aussi à côté, les deux espèces étant, les deux familles étant séparées, voilà. Ne pouvant pas être mélangées et vendues ensemble.
D'accord.
Donc là, on a le quartier qui, dès son développement, va abriter tous les métiers qui vont participer qui vont travailler avec le clergé, qui vont ravitailler le clergé, mais également l'aristocratie présente au château.
Et si on lève le nez dans la rue aux Herbes, il y a une maison avec un petit décor gravé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et pourquoi ce symbole ?
Quand on descend la rue aux Herbes, sur la droite, sur une des maisons, si on lève les yeux, sur une des clés de voûte, finalement, d'une des fenêtres, est gravée une petite chemise.
Alors pourquoi une chemise ?
C'était le symbole du clergé, enfin du chapitre de Chartres. C'est un symbole qu'on retrouve par exemple dans nos campagnes, hein, sur des bornes anciennes qui sont encore visibles, bornes qui servaient à délimiter les possessions et les juridictions du chapitre. Et la présence de cette chemise finalement indique que à partir de cet endroit, en gros, on est
dans le quartier.
Soit on entre dans la juridiction du chapitre, soit on en sort selon le sens que l'on prend. Alors, pourquoi une chemise ? Chartres possède une relique très très importante, hein, qui lui a été a priori offerte par Charles le Chauve au IXe siècle, qui est le voile de la Vierge. Cette relique, très très importante, va être placée dans un reliquaire au Xe siècle, et ce reliquaire ne sera réouvert qu'au XVIIIe siècle. Et entre-temps, le souvenir, finalement, on sait que c'est une relique de la Vierge, mais on ne sait plus exactement ce que c'est.
Et
le voile, progressivement, se transforme en chemise. Donc, qui va devenir le symbole, évidemment, du chapitre de
Donc c'est une évocation de la Vierge et de son voile transformé en chemise.
Voilà.
Merci Laurent pour cette visite que nous allons poursuivre du coup le mois prochain pour découvrir tout le quartier qu'on a commencé à évoquer des métiers et le château qui était avant à Chartres. Donc je vous invite aussi à réécouter l'émission sur Radio Grand Ciel et compléter aussi cette découverte grâce à la lecture donc du supplément de Sciences et Avenir consacré donc à l'évolution des villes à l'époque médiévale, où il y a un très bel article sur Chartres. Donc vous pourrez découvrir ce hors-série donc, à partir de fin septembre auprès de vos libraires. Et nous poursuivrons donc notre visite le mois prochain. J'espère que cette émission vous a plu. À très bientôt sur Radio Grand Ciel. Every now and then.